Ce soir, et comme tous les mardis, les derniers mardis du mois, nous ouvrons le registre historique avec Gabriel.
Oui, dans cette chronique mensuelle, on voulait donc parler de l'autre moitié de l'histoire, de l'envers du décor. Et plutôt que de parler des personnes célèbres, de ceux qui donnent leur nom à nos rues, on aimerait parler des perdants de l'histoire, des anonymes et des inconnus, de ceux dont l'histoire avec un H majuscule n'a jamais retenu le nom. On aimerait essayer de lire entre les lignes de l'histoire officielle, celle des manuels scolaires et des commémorations, et tenter de retrouver la trace d'une histoire qui se cache dans les interstices de la mémoire. Pour ce premier aperçu de l'histoire secrète de Lausanne, on va donc parler de prison, et plus précisément de la prison du Bois-Mermet, sur laquelle vient de sortir un bouquin un peu complaisant mais informatif de l'historien Christophe Vuillemier, intitulé « Ombre et lumière du Bois-Mermet ». En effet, pour cette première plongée dans l'envers du décor lausannois, quoi de mieux qu'un coup de projecteur sur sa prison ? Quand on monte vers la Blecherette par la rue des Plaines du Loup, elle apparaît soudain à droite, juste après le stade. La prison de Bois-Mermet, BM pour les intimes. Une prison bien caricaturale qui ressemble au pénitencier qu'on voyait dans les Lucky Luke de notre enfance. Un grand mur d'enceinte en pierre de 5 mètres de haut, une lourde porte en métal. Construite en 1905 pour remplacer l'ancienne prison de l'évêché, devenue trop vétuste, la prison du Bois-Mermet est située à l'époque en dehors de la ville. Conçue sur un modèle pénitentiaire alors en vogue, celui du panoptique inventé par les frères Bentham, sa conception doit permettre une surveillance maximale des prisonniers et leur donner le sentiment d'être en permanence sous le regard et sous le contrôle de l'autorité. Le président du Grand Conseil déclare alors, je cite, « La commune de Lausanne a entrepris la construction d'une prison neuve établie sur des plans modernes avec tous les perfectionnements les plus récents. Son plan est celui d'une croix avec un poste central unique de garde d'où la surveillance peut s'exercer en même temps dans tous les bras de la croix. Elle est bien installée, vaste et d'une surveillance facile. C'est un modèle du genre. » Bois-Mermet voulait être une prison modèle, mais une prison reste une prison. Et au début du XXe siècle, les conditions de vie y sont très précaires, l'hygiène déplorable, les abus de pouvoir fréquents et les histoires sordides ne manquent pas. Évoquons par exemple celle du prévenu Gray, 20 ans. Arrivé à Bois-Mermet en 1919, il casse une fenêtre de sa cellule. Pauvre, il ne peut payer pour faire changer la vitre. Les courants d'air lui causent dès lors des maux de rein. Les jours passants, sa santé se détériore, mais on le traite de simulateur quand il demande à voir le médecin. Quand le médecin de la prison vient enfin voir le prisonnier, sur demande expresse de sa mère, il estime lui aussi qu'il simule et ne fait rien. Après 2 semaines, son compagnon de cellule constate qu'il n'arrive plus à bouger et baigne dans ses excréments. Devenu paralytique, il est enfin emmené à l'hôpital, où il meurt quelques semaines plus tard. 2 mois auront suffi à transformer un jeune homme en bonne santé en Maccabée. Ni le geôlier en chef, ni le médecin de la prison ne furent inquiétés, la justice ayant simplement considéré qu'il était légitime de croire que le mourant simulait. Une dizaine d'années auparavant, on avait découvert que le directeur de la prison lui-même violait les femmes détenues dans ses cellules. Malgré qu'il ait été dénoncé et que les abus sexuels aient été confirmés par les prisonnières, les autorités ne le condamnent pas et la seule conséquence sera pour lui qu'on exige qu'il soit désormais accompagné de son épouse lorsqu'il entre dans le quartier des femmes. Si à Bois-Mermet, au début du XXe siècle, on laisse volontiers claquer les miséreux et on viole les pauvresses, il en va différemment lorsque le prisonnier a du pognon. En 1919, Jules Bloch, un riche marchand d'armes ayant fait fortune pendant la Première Guerre mondiale, se trouve incarcéré pour une affaire de corruption de fonctionnaires. Le traitement qu'on lui réserve est le suivant. Il peut recevoir à sa guise sa famille, ses notaires, ses avocats et son secrétaire, avec qui il continue de travailler. Il peut sortir en ville pour voir son tailleur ou son dentiste, voire même parfois pour dormir dans sa propre maison. Il prend ses soupers avec le directeur de la prison, puis prend un bain dans son appartement, et ainsi de suite. Le directeur de la prison expliquera ce traitement de faveur ainsi. C'est, je cite, « parce qu'il était riche ». Si dans les années 20, la situation s'améliore un peu et les abus sont moins criants, la prison de Bois-Mermet vivra d'autres événements, lors desquels s'affirme une justice de classe. Le 9 novembre 1932, à Genève, l'armée tire à balles réelles sur les manifestants venus protester contre un meeting fasciste et font 13 morts et 65 blessés. Le lendemain, à Lausanne, le mouvement ouvrier manifeste lui aussi pour montrer sa solidarité avec les victimes de Genève. Et une bombe explose quelques jours plus tard devant l'hôtel de ville. La police arrête alors plus de 70 personnes pour sédition et outrage au drapeau, qui avait été traité dans un discours de panos fédéral. Pour pouvoir remplir la prison lausannoise de manifestants arrêtés, il faudra déplacer tous les prisonniers ordinaires dans les autres établissements pénitentiaires du canton. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, la prison du Bois-Mermet tourne à plein régime. Elle va notamment accueillir une bande de sympathisants nazis de Payerne qui avait tué et dépecé un marchand de bétail juif. C'est une histoire que Jacques Chesset a racontée dans son livre « Un juif pour l'exemple » que vous avez peut-être lu. Mais plus qu'à enfermer des nazis, c'est à renvoyer des juifs que servirait la prison de Bois-Mermet pendant la Deuxième Guerre. Pendant cette période, la prison joue en effet le rôle de centre de tri et sert à retenir les réfugiés juifs en attendant de déterminer ceux qui seront internés dans les camps de réfugiés et ceux qui seront reconduits aux frontières, expulsés vers une mort probable dans l'Europe dominée par les nazis. Au total, plus de 180 juifs seront incarcérés au Bois-Mermet et au moins une centaine d'entre eux furent expulsés de Suisse. Dès 1933, le Conseil fédéral avait en effet décidé que, je cite, « les Israélites ne doivent pas être considérés comme réfugiés politiques ». Après la guerre, la situation se normalise. La prison est de nouveau occupée principalement par des criminels ordinaires, cambrioleurs ou voleurs de pommes. Mais une mesure née pendant la guerre reste en vigueur, celle de l'internement administratif. Cette procédure consiste à enfermer des gens sans jugement, sur simple décision d'administration. Elle est destinée, je cite, « à toute personne âgée de plus de 18 ans qui s'adonne habituellement à la prostitution ou au racolage, qui tire tout au parti de ses moyens d'existence de l'inconduite d'autrui, qui trouve dans le jeu interdit par la loi une partie appréciable de ses moyens d'existence, qui compromet par son inconduite ou sa fainéantise la sécurité ou la santé d'autrui. » Ces mesures spéciales, extrajudiciaires, existeront jusqu'au début des années 70, moment où leur dénonciation par des groupes politiques conduira à leur abolition. Elle existe cependant encore actuellement pour les étrangers sans papier, qui peuvent toujours encore être détenus administrativement, sans procès, par exemple dans la tristement célèbre prison de Framboise de Genève, que le public a pu découvrir dans le film Vol spécial. Les années 70 sont une période agitée, et la contestation des prisons et des conditions de vie des prisonniers devient un sujet que les groupes portent dans l'espace public. On commence enfin à pouvoir entendre des paroles qui viennent de l'intérieur des prisons, notamment par le biais des objecteurs de conscience, et à se poser publiquement la question des conséquences de l'enfermement sur les détenus.
Il n'y a pas de droit. Le droit, c'est le directeur. C'est tout. C'est le directeur qui commande. Si vous écrivez même une lettre à un magistrat, à un procureur, pour vous plaindre ou quelque chose, on la renvoie au directeur. Bon, si vous avez dit quelque chose contre l'administration, on vous punit. On dit vous avez menti, on vous punit, c'est tout. Ça ne va pas plus loin. Ça n'existe pas de procureur qui se dérange, on vous a brutalisé, on vous a fait ça. Non, ça n'existe pas. D'abord, ils n'y viennent pas dans les prisons. Quand ils viennent, nous, on ne peut pas les voir, ils vont manger au mess ou boire avec le directeur. Personne ne les voit, j'ai jamais vu un type se promener dans l'atelier et me dire « je suis procureur, vous avez quelque chose à dire ». J'en ai jamais vu, moi.
De 1975 à 1977, en 3 ans, on a enregistré 51 suicides dans les prisons suisses pour une population carcérale moyenne de 3600 détenus. Le nombre des suicides dans les prisons suisses est nettement plus élevé qu'à l'étranger. En Suisse, un détenu sur 200 se suicide. En France et en Allemagne, un détenu sur 770 met fin à ses jours. En Italie et en Autriche, un détenu sur 1250 se donne la mort. Au-delà de ces chiffres, le rapport fédéral démontre une chose, c'est que la prison, conçue comme système essentiellement répressif, tue. Ce rapport est d'ailleurs limité dans ses objectifs. Il n'évoque pas un autre aspect du problème, celui des tentatives de suicide, et pourtant, elles sont nombreuses.
Il n'y a aucun droit, absolument aucun droit. Vous êtes là pour être puni. Dans une prison, c'est pour vous punir, c'est pas seulement vous pouvez liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, on vous apprend rien, vous n'apprenez pas de métier, rien du tout, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
C'était un petit montage de son extrait d'un film documentaire français qui est sorti récemment, intitulé « Sur les toits », et d'un autre, une archive audiovisuelle de la RTS, un reportage des années 70, de 78, je crois. Donc dans ces années 70, les mobilisations en soutien aux prisonniers se mettent en place. Des groupes commencent à se battre pour l'amélioration des conditions de détention, dénoncent le grand nombre de suicides en prison et l'arbitraire qui y règne. En Suisse romande, c'est le groupe Action Prison qui se forme en 1974, à la suite du meurtre d'un gamin de 18 ans abattu par la police alors qu'il tentait de s'évader en vélomoteur. Ce groupe réussit à faire de la prison un sujet débattu dans l'espace public, et leur action contribuera à améliorer sensiblement les conditions de vie des détenus. Mais la prison reste la prison. Ces dernières années ont vu la surpopulation carcérale encore augmenter. Selon les derniers chiffres disponibles, Bois-Mermet, dont la capacité officielle est de 100 places, entassait récemment dans ses cellules 168 prisonniers et prisonnières, mettant jusqu'à 2 ou 3 personnes dans des cellules individuelles, certains devant se contenter d'un matelas posé à même le sol. En 2013, la Commission nationale pour la prévention de la torture a décrit les conditions de vie à Bois-Mermet comme étant intolérables. À Radio Django, on n'est pas trop des experts, mais on se permet de rappeler aux autorités et surtout aux prisonniers qu'il existe un excellent moyen de lutte contre la surpopulation carcérale, l'évasion. Ouais. On se prend aussi à rêver aux grandes mutineries des années 70, lorsque les prisonniers se rebellaient et montaient sur les toits pour défendre leurs intérêts. Le groupe Berruriers Noirs leur avait, en son temps, rendu hommage. Et pour finir en beauté, on écoute leur chanson « Sur les toits ».
Tu sont montés sur les toits. Non, c'était pas pour le plaisir.
Merci Gabriel pour cette rubrique historique consacrée aujourd'hui à la prison du Bois-Mermet. Et je vous rappelle le nom de cet ouvrage dont il est fait référence, « Ombre et lumière du Bois-Mermet » par Christophe Vuillemier. Rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle rubrique historique.